Bienvenue dans un nouvel épisode de Parlons Golf, le podcast. Je suis Lionel Bocher et chaque semaine, j'accueille un ou une invitée de la filière golf pour parler ensemble de son actualité et du développement du golf en France. Bonjour à tous, pour ce 12e épisode du podcast, j'ai le grand plaisir d'accueillir Thierry David, rédacteur en chef golf du groupe Canal+ et de la chaîne Golf+. Bonjour Thierry.
Bonjour Lionel, bonjour à tous.
Thierry, je t'accueille dans cette émission quasiment à la sortie de l'avion, puisque tu rentres tout juste des États-Unis quelques heures après la fin du Players Championship. Un tournoi qui s'est terminé exceptionnellement lundi à cause d'une météo plus que capricieuse, on va dire. Première question, ce sont les aléas d'un sport extérieur, mais comment gère-t-on dans les coulisses de la chaîne une telle semaine entre absence de jeu et décalage du planning ?
Alors, je dirais que on le gère un petit peu comme on peut, parce que c'est pas toujours évident d'anticiper les choses, même si de notre côté, on avait évidemment regardé un petit peu les prévisions météo pour cette semaine. On savait qu'on s'exposait à des arrêts de jeu, à des retards et à des ennuis. Ça a été bien au-delà de ce qu'on avait imaginé, parce que on pensait pas, pour reprendre le terme que j'ai pas mal utilisé, avoir les 4 saisons en 5 jours, ce qui a vraiment été très compliqué pour tout le monde. Et alors non, quand je le dis, on le gère comme on peut. On y est habitué, malheureusement, parce que effectivement, il y a quand même quelque chose qui est une constante dans la gestion de ces événements-là par le PGA Tour en général, c'est que même si ce que j'ose espérer, et c'est le cas, ils anticipent les possibles retards et les possibles problèmes qu'on peut connaître sur un tournoi en termes de communication, ils n'anticipent jamais vis-à-vis des diffuseurs notamment, et donc en l'occurrence de nous. C'est-à-dire que en fait, chaque update, chaque mise à jour des renseignements est faite quasiment heure par heure. C'est-à-dire que moi, à plusieurs reprises dans la semaine durant le tournoi, j'étais en contact permanent avec les responsables des TV internationales pour le PGA Tour, et on ne nous a jamais fourni d'explications et d'anticipations officielles sur une journée ou sur deux journées. On était vraiment au heure par heure, c'est-à-dire que chaque heure, on nous disait rendez-vous dans une heure pour un nouveau point. On n'avait jamais une projection sur ce qui pouvait se faire. Alors, j'en avais des officieuses par les gens du PGA Tour avec qui on travaille maintenant depuis très longtemps, mais c'était quelque chose de tout à fait officieux, et il a fallu vraiment s'adapter, même pas au jour le jour, mais de l'heure à l'heure, tant et si bien que le bouquet de la chose a été la dernière journée de lundi, où en fait on a vite compris que le lundi, comme la météo était bonne, on allait pouvoir finir dans les temps sans aucun problème, parce qu'on pouvait démarrer tôt et donc finir finalement assez tôt. Mais on a appris dimanche soir tard que à la demande express des diffuseurs américains, en l'occurrence Golf Channel et NBC, on n'allait pas profiter de pouvoir rattraper ce retard, puisque les TV américaines souhaitaient démarrer un peu plus tard pour terminer en prime time. Donc, on prend des risques jusqu'au bout. C'est-à-dire que s'il y avait eu un playoff, puisque je rappelle qu'il se joue sur 3 trous minimum là-bas, on aurait de nouveau été exposé à un finish le mardi. Donc ça, c'était vraiment très ennuyeux. Donc, on est toujours dans les spectatives et on est toujours à jongler, à se faire plusieurs projections possibles pour nos antennes, pour adapter les programmes. Et c'est ça qui est compliqué, fatigant pour tout le monde et usant pour toutes les équipes, que ce soit sur place ou à Paris, ou que ce soit en termes d'édito, mais en termes de programmation également. On doit jongler quasiment à l'heure près pour pouvoir se projeter sur la suite. Et ça, c'est vraiment très compliqué.
Le golf a la chance d'avoir sa propre chaîne au sein du groupe Canal+. Est-ce que ça aide un peu, en tout cas, Pour Golf Plus, c'est moins gênant, mais j'imagine que c'est la codiffusion avec les autres chaînes du groupe qui est plus problématique, quoi.
Oui, clairement. Clairement, maintenant, on va voir effectivement le côté positif de la chose. C'est qu'effectivement, comme tu le dis, le fait d'avoir Golf Plus, cette chaîne 100% dédiée au golf, nous tire une belle épine du pied parce que on part du principe que effectivement le golf historiquement depuis 1986 maintenant c'est sur Canal mais grâce à Golf Plus on part du principe que même si on veut proposer le golf au plus grand nombre et le faire découvrir à nos abonnés Canal qui sont pas forcément tous des gens qui sont des aficionados de golf, on a cette possibilité de contenter le fan, le super fan de golf grâce à Golf Plus. Mais c'est vrai que par rapport à ça, tu as tout à fait raison parce que moi, j'ai vu des scènes que je n'avais pas vues encore dimanche soir sur le Players lorsqu'on était au TV Compound, qui est l'endroit où toutes les télés du monde sont regroupées. Moi, j'ai vu des collègues, les collègues japonais, par exemple, les collègues coréens, ils ont rangé le matériel parce qu'en fait, sur leurs chaînes, qui ne sont pas des chaînes 100% dédiées golf, on n'avait pas pu leur octroyer de créneau pour diffuser la fin du Players le lundi. Donc, il y avait une extrême frustration chez mes collègues. Ils ont travaillé toute la semaine et en amont parce que ça se prépare pas en quelques jours pour au final ne pas proposer le finish. Donc moi j'ai vu des collègues qui rangeaient le matériel le dimanche soir et qui étaient hyper frustrés de pas pouvoir proposer ça aux gens, quoi.
J'imagine. Justement, puisqu'on parlait de la chaîne Golf Plus, est-ce que tu peux nous présenter l'équipe de la chaîne qui travaille au quotidien 100% sur le golf quasiment?
Ouais, avec plaisir. Alors on n'est pas une équipe qui est extrêmement développé en quantité, on va dire, mais ça s'arrange au fil des ans. Hein. On s'est parlé en 2017 quand je suis arrivé, où on était vraiment des artisans, 3-4 artisans. Maintenant, on a réussi à monter une équipe qui tient vraiment la route en qualité et en quantité. Alors c'était déjà le cas en qualité. On avait la chance d'avoir des gens déjà passionnés. On était trois. Donc maintenant, effectivement, on a réussi à développer une équipe qui est un petit peu plus conséquente en termes de moyens humains. Il faut savoir que l'équipe, elle a été renouvelée quasiment à 100% depuis 2 ans maintenant. Je suis un petit peu le papa de la bande maintenant, hein. Je suis plus vieux. C'est vrai que
plus expérimenté en fait.
Ouais, voilà. On va dire le plus expérimenté. Non, c'est vrai que effectivement on a eu la chance. Bon, Golf Plus c'est 2012, hein. On était une petite équipe déjà à la base de Cadra, voire de Quinca. Et puis les choses de la vie font que effectivement certains s'en vont, d'autres arrivent. Il y a celui qui a insufflé la chose, qui est la voix du golf, que je vais saluer, que je vais remercier, qui est Christian Ledan, qui nous a quitté l'année dernière. Christian, il a pris sa retraite. Mais c'est vrai que ça faisait déjà un an et demi que malheureusement il avait des petits soucis physiques. Et de santé lié à notre métier d'ailleurs, parce qu'effectivement on s'en rend peut-être pas compte, mais par rapport à Canal où on diffusait finalement 2 heures de majeur par-ci par-là lors des grandes compétitions, l'arrivée de Golf Plus a fait qu'on propose tout et en intégralité, et le fait de commenter de longues heures, lorsqu'on s'installe dans le siège de commentateur, on est parti pour 4, 5, 6, on a déjà fait 7 heures non-stop. Certes, c'est pas du travail à la chaîne ni à l'usine, mais passer 7 heures dans un siège, c'est exigeant physiquement, et ça cause des petits soucis. Effectivement, Christian, on a été victime, on en est tous victimes. Hein, les hernies discales et ces choses-là font que c'est un petit peu compliqué. Donc effectivement, la fin a été compliquée, et Christian a pris sa retraite bien méritée. Donc je voulais le saluer d'ailleurs au passage et l'embrasser bien fort, parce que je sais qu'il nous suit toujours et que c'est la famille Golf Plus. Mais après le départ de Christian, et puis d'autres orientations également professionnelles, je pense à Cyril qui nous a quitté lui juste après l'Open de France en 2018 pour pour partir toujours dans le monde du golf, mais vers d'autres destinées, que ce soit professionnelles, mais également géographiques, a fait qu'on a été contraint de renouveler l'équipe. Donc, pour arriver à cette nouvelle équipe, je vais commencer par les commentateurs. Donc, il y a Adrien Toubiana qui nous a rejoint il y a plusieurs années maintenant. Hein, je l'avais récupéré au service rugby. Adrien, qui est un golfeur et qui est un jeune, pas si jeune, parce que quand je vais vous parler de la suite, il sera pas si jeune, mais Adrien vient de fêter ses 37 ans et il nous a rejoint il y a 5 ans maintenant, mais définitivement depuis 3 ans. Donc, Adrien Toubiana. Ensuite, il y a Nicolas Fabre. Je suis très fier d'avoir avec moi parce que quand je suis arrivé en 2017, Nicolas, ça a été mon premier journaliste alternant. Il était encore à l'école. Le chemin a été long et beau pour Nicolas, puisque après avoir été alternant, ensuite il a été pigiste, ensuite il a été sous contrat à durée déterminée, puis maintenant il est avec nous complètement. Donc Nicolas il a 26 ans, il nous a rejoint donc il y a quelques années. Et puis le dernier arrivé, mais il est là depuis longtemps aussi, le dernier arrivé définitivement, c'est Steven Boulay, que j'ai eu également avec nous depuis 2017, d'abord en stagiaire et puis en pigiste, et puis maintenant il a rejoint l'équipe définitivement. Steven, qui est un très bon golfeur, hein, au passage, hein, c'est le meilleur d'entre nous tous, hein, c'est un très bas index. Et voilà, donc ça c'est pour l'équipe de commentateurs. Tous passionnés, tous golfeurs, tous vraiment à fond dans ce qu'ils font. Ensuite, vous pouvez ajouter évidemment Pauline Sanzet, qui est avec nous depuis plusieurs années maintenant, dont chaque année je me dis que je vais la perdre parce qu'elle est tellement... C'est tellement une journaliste de qualité que je me dis qu'effectivement, Canal va finir par nous la piquer pour la mettre ailleurs. Donc effectivement, Pauline enchaîne les sports. Hein. Vous l'avez vu sur la boxe, vous l'avez vu sur pas mal de choses. Elle démarre la Formule 1 la semaine prochaine. Mais j'ai pour l'instant la garantie qu'elle va rester avec nous pour présenter le mag. Donc Pauline... Bon, Pauline, voilà, quoi, super, c'est le rayon de soleil de tout le monde ici. C'est une journaliste brillante, travailleuse et qui a donné une nouvelle dimension au golf de par sa personnalité. Je trouve que c'était vraiment important d'avoir quelqu'un comme Pauline qui donne un autre éclairage au golf. En termes d'éditorial également, il y a quelqu'un qui est très important, qui nous a rejoint il y a 2 ans et demi, 3 ans maintenant, qui est Sébastien Cometti, c'est notre chef d'édition. Le chef d'édition dans le journalisme en général et dans le journalisme sportif et au golf en particulier, c'est un poste crucial parce que c'est quelqu'un qui construit l'ossature des événements un petit peu dans l'ombre. C'est-à-dire que Sébastien fabrique Golf Plus le mag. Quand je le dis, il le fabrique techniquement, il le fabrique éditorialement avec moi. C'est lui qui est le garant du contenu et des améliorations qu'on met à l'intérieur. Donc c'est quelqu'un qui travaille à l'Omnisport, hein, également, qui travaille sur les grosses émissions Canal et notamment le Canal Sport Club, et qui fait le mag avec nous depuis 2 ans et demi maintenant. Et c'était intéressant également de l'avoir parce que pour le coup il connaissait rien au golf quand il est arrivé non plus. C'est quelqu'un qui a une grosse culture de sport américain. Donc la façon de vendre le sport dans sa conception, je dirais entertainment, comme le voient les Américains, lui il l'a et il nous apporte beaucoup de choses. Alors c'est vrai que on a parfois des petits tiraillements ensemble parce que c'est un peu trop dans l'entertainment pour nous les purs golfeurs, mais il en faut, et effectivement ça permet au mag de se développer et d'avoir une résonance qui est beaucoup plus importante chez les gens qui découvrent le golf, parce que effectivement, il y a cette difficulté dans le mag de se dire que on propose Golf Plus le mag pour les abonnés Golf Plus qui sont des super fans, hein, c'est comme ça qu'on les décrit, donc ils connaissent tout de A à Z, hein, vous pouvez prendre tous les termes ultra techniques du golf, les gens connaissent, mais le mag est également diffusé sur Canal Plus Sport et sur Canal+, c'est-à-dire qu'il est potentiellement visible par des gens qui ne connaissent pas du tout ce jeu qui est le golf. Et lorsque vous commencez à leur parler de birdie, de bogey, de lay-up, de choses comme ça, ils décrochent vite. Donc, il faut également leur donner un décryptage qui est un petit peu plus grand public. Donc, grâce à sa vision, ça nous permet aussi de ne pas oublier les gens qui sont pas forcément des férus de golf. Donc ça, c'est pour l'équipe, je dirais, resserrée. Après, on travaille aussi avec des gens qui sont vraiment des récurrents du MAG. Il y a Romain Bouchenot qui commente également, qui nous fait des sujets, qui travaille sur d'autres sports et ailleurs, qui est pigiste chez nous, qui est un élément aussi important de la chaîne parce que c'est un très bon golfeur et que c'est un très bon commentateur également. Il y a Dimitri Martin qui nous fait des très bons sujets également, qui est également golfeur, même s'il a une appétence plutôt foot au départ, mais c'est un bon golfeur également, il connaît bien le jeu. Donc Dimitri nous fait souvent des sujets pour Golf Plus le Mag et commente depuis quelques temps également. Je l'ai notamment placé aux commentaires sur les tournois du PGA Tour Champions, c'est un très bon commentateur. Et dans l'équipe, il y a une jeune femme également qui s'appelle Kenza Mellul, que j'ai découvert l'année dernière lorsque je l'ai pris en stage. Elle était encore à l'école. C'est une jeune journaliste, hein, elle est toute jeune, Kenza, 22 ans, je crois. C'est une jeune femme qui je pense, peut avoir un très bel avenir dans le journalisme sportif. C'est une très bonne golfeuse, elle est scratch. Elle jouera à la Golfers, d'ailleurs, cette année avec son club du Prieuré. D'ailleurs, on va travailler sur quelque chose pour proposer aux abonnés un regard et un décryptage assez nouveau de la golfeur grâce à elle. On sera en inside avec elle au sein d'une équipe le mois prochain. Donc ça, c'est intéressant. Donc Kenza travaille beaucoup également avec nous, que ce soit en com, parce que je lui ai fait faire du com assez rapidement. Elle a commenté une partie du British Women l'année dernière. Elle fait des petits sujets également et puis elle fait beaucoup d'éditions avec Sébastien. Donc ça c'est la partie édito, je dirais. Évidemment on a un programmateur qui s'appelle Patrick Sever qui s'arrache le peu de cheveux qu'il a encore lorsqu'il y a des semaines comme aux Players, parce que ça change toutes les heures. Il faut casser la grille sans arrêt et recommencer tout. Et c'est je vous assure que c'est une tannée. Donc c'est beaucoup beaucoup de boulot et voilà, je pense avoir oublié personne. Il y a aussi évidemment beaucoup de personnes qui ponctuellement viennent nous aider.
Pour la quasi-totalité des tournois, vous diffusez les images qui sont filmées et réalisées par d'autres entités. On le rappelle, hein, puisque régulièrement vous avez le droit à votre petite pique sur les réseaux sociaux en disant mais pourquoi vous nous montrez pas un tel et un tel. Malheureusement, vous subissez, mais la question, c'était, est-ce que vous arrivez quand même à avoir un dialogue avec le PGA Tour, avec le DP World Tour maintenant?
Oui, on a un dialogue, évidemment, parce que ça, c'est quelque chose qui est gênant, qui, à mon sens, n'est pas tolérable. Curieusement, on a plus d'écoute auprès du PGA Tour qu'on en a auprès du DP World. Le PGA Tour, alors il faut vraiment comprendre la différence entre les deux, c'est-à-dire que le DP World, European Tour, produit ces images via European Tour Production, c'est-à-dire que ce sont eux qui ont la main, ils font leurs images. Le PGA Tour, c'est pas le cas. Le PGA Tour délègue la fabrication de ces images à Golf Channel et NBC. C'est-à-dire que, en fait, les Américains laissent fabriquer le signal par les chaînes américaines et le reprennent et le proposent au monde entier. C'est pour ça que lorsque vous regardez du PGA Tour, eh bien, régulièrement, on se prend à l'image les commentateurs américains. Ce qui est intolérable. Ça ne s'appelle pas un signal international. Moi, ça fait partie du débat que j'ai avec eux, en leur disant, je suis désolé, vous nous parlez de signal international, ça n'est pas un signal international. Un signal international n'est pas pollué par des éléments qui sont propres à votre pays. Je leur donne souvent l'exemple. Hein. Nous, Canal+, on produit des images, notamment les matchs de foot qu'on vend à l'étranger. Lorsqu'on propose un PSG Marseille et qu'on le vend en Chine, parce que ça arrive, les Chinois, ils voient pas les commentateurs de Canal. C'est-à-dire qu'au moment où le commentateur de Canal apparaît, les Chinois, à la place, ils ont une autre image. On leur montre de la tribune ou on leur montre autre chose. Sur le golf, c'est encore plus facile à faire, hein, parce que autant sur le foot, quand on voit les commentateurs, c'est qu'il n'y a pas de jeu. Au golf, c'est pas le cas. Hein. C'est-à-dire que pendant qu'on voit les commentateurs, ils pourraient tout à fait nous mettre une image d'un gars qui est en train de taper un coup, parce que ça joue toujours. Mais ils savent pas faire. C'est-à-dire qu'ils ne l'entendent pas. Pour eux, les Américains, il n'y a qu'eux au monde. C'est-à-dire que le reste de la planète, ils comprennent pas. Moi, j'ai encore eu le débat. On a fait un meeting de plus d'une heure et demie encore durant le Players, parce qu'il y avait des moments où on avait le temps, finalement. j'ai eu des exemples pas plus tard que, je sais plus si c'est dimanche ou lundi. Alors, je passe les séquences où on voit tous les commentateurs américains sans arrêt, dont on se fout complètement. Ou alors, ces interminables leaderboards, hein, les leaderboards que vous voyez sans arrêt, c'est parce que pendant ce temps-là, ils sont en train de passer de la pub. Mais je sais que lundi, je crois que c'est lundi, à un moment, on s'est pris plein écran, un tweet énorme qui disait Tom Brady, finalement, a décidé de ne plus prendre sa retraite. Donc, moi, je suis allé les voir, on en a parlé. J'ai un peu caricaturé, certes, mais je leur ai dit, vous savez, en France et dans le reste du monde, Tom Brady, on s'en fout, on ne sait pas qui c'est, quoi. Le foot US, on s'en fout. Donc, ne nous mettez pas ça, quoi. Alors, effectivement, quand on leur dit, ils comprennent. Donc, je pense que avec eux, le problème, ce serait qu'ils puissent fabriquer eux-mêmes leur signal. C'est-à-dire que PGA Tour devrait fabriquer, avoir son quart de réalisation et nous faire les images pour le reste du monde, un international feed. Ce qui me semblerait évident. Donc, alors là, ils m'ont encore dit qu'ils allaient y réfléchir, mais ça fait 6 ans qu'on en parle et à chaque fois ils me disent oui, on va y réfléchir. mais ça c'est un problème. Pour le DP World, c'est un autre problème. Le DP World, c'est effectivement un quart du European Tour de réalisation avec un réalisateur du European Tour qui fait ses images, mais étant anglo-anglais. tout ce qui se passe hors de l'île ne les intéresse pas. Donc montrer des joueurs internationaux, c'est compliqué. Souvent je leur dis, moi j'aimerais bien avoir des Français. Ils me répondent, oui, mais il faut qu'ils soient bien classés. Je dis oui, effectivement, mais pour vous être bien classé, quand on n'est pas anglais, c'est être dans le top 1. Si t'es pas en tête, on te voit pas. Donc ça c'est un vrai problème. Moi je me souviens d'une scène. Lors du trophée Hassan II, l'année où Alex Lévy a gagné, le premier jour quand même, on a 6 Français dans le top 10. On voit pas une image. On ne voit pas une image. Nous, on était sur place. Moi, je suis allé dans le cadre du European Tour. On s'est quasiment accroché physiquement avec le réalisateur. Mais c'était un non-sens. Voilà. Alors, heureusement, sur ce tournoi-là, Alex a super bien joué et il a fini par gagner. Donc, on l'a beaucoup vu. Donc, ils m'ont fait mentir. Mais effectivement, si le Français n'est pas en tête, on ne le voit pas. Je sais que j'ai encore eu des réflexions la semaine dernière quand Mathieu Pavon était troisième, où j'avais des gens qui hurlaient en nous disant « on en a marre ». Ben oui, nous aussi, on en a marre, mais on n'y peut rien. Et alors, ce qui m'attriste et ce qui me met en colère parfois, c'est quand les gens… nous disent vous ne faites rien. Si on fait quelque chose, mais c'est se heurter à un mur souvent, malheureusement.
On va rester un peu sur ce thème-là avec la question des droits. En 2018, il y a eu un accord signé entre le PGA Tour et le groupe Discovery pour les droits de diffusion. En France, Canal+ a les droits jusqu'en 2024, je crois. Est-ce que on sait déjà comment ça va se passer après?
Alors, sur le papier. Sur le papier, oui, on sait comment ça va se passer, puisqu'effectivement, comme tu le disais, Discovery a signé pour le monde entier, hors États-Unis, un contrat avec le PGA Tour qui fait qu'il récupère les droits du PGA Tour dans tous les pays du monde. Pour la France, c'est Eurosport, puisque Eurosport appartient à Discovery. Donc, sur le papier, effectivement, en 2024, quand le contrat va s'arrêter avec Canal, sur le papier, le golf sera sur Eurosport. Sur le papier, parce que évidemment, On va pas et on ne reste pas les deux pieds dans le même sabot. Évidemment, il va y avoir des discussions entre. Alors là, ce sont des discussions qui vont se faire en local, c'est-à-dire ici en France. La discussion, elle se fait entre Canal+ et Eurosport. Et je peux vous dire que les équipes des acquisitions de droits à l'international chez nous travaillent déjà depuis plus d'un an et demi sur ça. Alors, on est encore loin du compte, hein, il y a encore 2 ans, donc le paysage, je dirais, audiovisuel français peut très vite évoluer, comme tu le sais, et il est en constante mouvance, donc aujourd'hui, je suis incapable de vous dire ce qui va se passer. Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, on y travaille, que Canal, évidemment, a des intérêts à avoir le PGA Tour, je ne vais pas vous les expliquer parce qu'il me semble évident. Eurosport peut avoir des intérêts à nous les céder ou à nous les échanger contre des droits que nous possédons et qui les intéressent. Ça, c'est sur mon travail. Et je peux vous dire aussi que PGA Tour est très attentif à cela et qu'ils ont de gros intérêts à ce que le groupe Canal continue de diffuser le PGA Tour. Voilà. C'est une situation qui s'est déjà produite, Lionel, dans les années 2000. Je voudrais pas dire de bêtises. Ça devait être en 2000-2001. À l'époque, le groupe Pathé avait les droits du PGA Tour. J'y travaillais, hein, j'étais au foot à l'époque. Et donc Pathé Sport, la chaîne qui a été rachetée après par Canal, qui est devenue Golf Sport Plus, Pathé Sport avait les droits du PGA Tour en 2000 et les a perdus au profit de Eurosport France pour 4 ans. Donc en 2001, le PGA Tour était sur Eurosport, donc normalement pour 4 ans, mais dès la fin 2001, le PGA Tour a fait rompre le contrat avec Eurosport parce qu'il n'était pas satisfait de la couverture que Eurosport, à l'époque, donnait au golf pour la France. Parce que c'était exposé de ci, de là, de voilà. Et il préférait revenir sur Pathé Sport, qui entre-temps était devenu Sport Plus. Et qui finalement diffusait du golf, mais peu au regard, en comparaison de ce qu'on peut proposer aujourd'hui grâce à la force de frappe qu'on a avec Golf Plus. Il faut savoir que nous, on diffuse l'intégralité de tout ce que propose le PGA Tour. Et l'intégralité de tout ce que propose le PGA Tour, c'est pas seulement le PGA Tour. On propose évidemment tous les tournois du Korn Ferry qui nous donnent un résumé. On propose tous les Champions Tour qui nous donnent un résumé. On propose tous les programmes spéciaux qui aussi font la promo du PGA Tour. Donc, ils ont un intérêt immense à ce que Golf Plus et le groupe Canal continuent d'être le diffuseur du PGA Tour à l'avenir. Mais je dirais que la chose n'est pas dans leurs mains en direct. La chose, elle est dans les mains de Discovery et donc d'Eurosport en France, pour lesquels on est en discussion actuellement.
Merci pour toutes ces précisions. Alors, forcément, dans le podcast, on s'intéresse à l'actualité de l'invité. Alors, pas la tienne en particulier, mais celle de la chaîne Golf Plus. Et puis, l'actualité immédiate qui va arriver dans quelques jours, c'est le Masters Augusta, un des tournois phares de l'année. En tout cas, pour le spectateur, on va dire. Après, les puristes vont préférer The Open, mais le Masters Augusta reste forcément un tournoi à part. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment on se prépare à un tel événement et puis quel va être aussi le programme sur les chaînes du groupe?
Alors le dispositif, je suis pas en capacité à vous le donner définitivement aujourd'hui parce que c'est bien simple, on a une grosse réunion éditoriale demain matin pour le définir. Mais j'en connais les contours évidemment et je peux déjà vous en parler. Alors le Masters, évidemment à suivre en intégralité sur Golf Plus. Il faut savoir que en heure française, le signal international donc débute à la louche à 21h. C'est 21h, 1h, mais que de tradition, avant cela, on vous proposait la main corner. On va arrêter cette année avec la main corner. Ça, c'est une réflexion que j'ai et qu'on a depuis un petit moment, de proposer la main corner. Quelle est la pertinence de la main corner pour nos abonnés? Moi, je trouve que la pertinence de la main corner pour nos abonnés, elle se justifiait lorsqu'il y a un Français, notamment. Puisqu'en fait, au moins, on est sûr de le voir une fois, ce qui n'est pas le cas d'habitude, puisqu'il va forcément y passer et il le filme forcément. Donc, on était sûr de voir le Français. Bon, cette année, comme tu le sais, comme vous le savez, il n'y aura pas de Français. Donc, plutôt que de mettre la main corner en amont, on va proposer les feature groups. qui sont des parties de vedettes que l'on suit avant. Donc l'amplitude horaire sera la même, hein, c'est-à-dire que je l'ai plus en tête, mais en fait, en gros, 4 heures avant le signal international, on va vous proposer les feature groups. Donc alors, il y a Golf Plus, évidemment, tout ça en intégralité. Il y aura du Canal Plus Sport, il y aura du Canal Plus. Il y aura le fameux Amen Corner qu'on ne vous met plus en linéaire, mais on va vous le proposer sur MyCanal. Il y aura également une chaîne sur l'expérience augmentée avec tout le practice.
Un beau programme en perspective, clairement. On va en revenir à ton expérience et puis à ton rôle de rédacteur en chef. Tu es dans l'équipe des journalistes Golf depuis septembre 2012. Tu as pris la tête de la rédaction Golf en janvier 2017. Est-ce que tu constates un engouement croissant pour ce sport de la part du public depuis que tu es au sein de l'équipe Golf?
C'est compliqué, je dirais. J'ai un petit peu envie de le rapprocher de ce que j'entends dans les clubs, auprès de la FF Golf, avec qui j'ai des échanges très réguliers, notamment avec Christophe Muniesa. On joue dans le même club, on s'en parle souvent. Et c'est lié, je vais rapprocher ça de cette fameuse période de 2 ans hein, qui est liée au Covid. Parce que moi, les questions que j'avais par rapport à la FF Golf notamment, c'est de dire, ou dans les clubs, hein, quand je vais dans les clubs, je discute souvent avec les directeurs et avec les gens de l'accueil, des choses comme ça, pour savoir est-ce que vous avez des nouveaux golfeurs. Et souvent, la réponse est oui, il y en a, mais pas tant. En revanche, on voit beaucoup de gens revenir au golf. Des gens qui ont joué au golf il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, qui avaient arrêté pour X raisons, hein, la vie professionnelle, la vie familiale, les enfants, des choses comme ça, et qui se sont remis au golf. Là, c'est vraiment particulier à la période de la pandémie. Donc, des nouveaux golfeurs, je sais pas. Oui, évidemment, il y en a. Des gens qui s'intéressent au golf, qui ne sont pas golfeurs, il y en a aussi, ça je le constate parce que je reçois des courriers, des mails, des mots sur les réseaux de gens qui ne jouent pas au golf actuellement, mais qui regardent le golf et qui aiment regarder le golf. Ça c'est peut-être la belle histoire, c'est peut-être le truc le plus surprenant. Il y en a pas mal. Mais des gens effectivement qui reviennent au golf, oui, ça il y en a beaucoup. Ça il y en a beaucoup.
Et dans cette période de 10 ans, on a eu la chance d'accueillir la Ryder Cup en France. Canal Plus a fait un travail, on va dire exceptionnel, en toute sincérité, pour mettre en lumière le golf en France. Beaucoup ont reproché que vous étiez un peu seul dans l'histoire, mais en tout cas, est-ce que vous avez constaté au sein de Golf Plus et du groupe un avant et un après Ryder Cup?
On a fait nos meilleures audiences historiques, ça c'est certain. On a fait plus de 2 millions de téléspectateurs sur la Ryder Cup en cumulé, ce qui est énormissime pour du golf. C'est aussi dû aux quelques plages en clair qu'on a proposées, puisqu'effectivement, tu le disais, certains reprochent le manque de couverture qu'il y a eu en France, on le déplore aussi. Puisque on rappelle que c'est un événement qui fait partie des événements mondiaux qui peuvent être normalement couverts par les chaînes en clair sans que ça leur coûte d'argent, c'est-à-dire que si une chaîne en clair publique s'était manifestée pour retransmettre la Ryder Cup en codification avec nous, on aurait été tenu de leur donner l'autorisation de le faire, on n'a jamais été sollicité. Donc effectivement, ça on le déplore. C'est pour ça qu'on n'a pas lié ce manque en proposant des plages en clair. Après, est-ce qu'il y a un virage avant après Ryder Cup? Je suis pas persuadé. Je suis pas persuadé. Alors effectivement, si je rencontre des gens hein, qui étaient pas golfeurs ou qui ne le sont pas ou qui s'y mettent, qui me disent ah ben oui, mais je suis tombé sur ça il y a 4 ans maintenant et j'ai trouvé ça incroyable et ça m'a donné l'envie de m'y intéresser, peut-être pourquoi pas de m'y mettre. Oui, il y en a évidemment. Je pense qu'on aurait pu faire mieux. Je pense qu'on aurait, mais comme beaucoup de gens, on aurait pu faire mieux.
Clairement. Alors ces dernières années, Golf Plus a aussi tu disais tout à l'heure, vous diffusez beaucoup de programmes du PGA Tour, mais vous avez aussi développé vos propres programmes avec le MAG et puis l'œil des pros. Est-ce que vous avez vocation à en faire de plus en plus ce genre de programme?
Il y a une nouvelle émission d'ailleurs depuis septembre dernier qui s'appelle Easy Driver, qui est dans un style tout à fait différent parce que effectivement on essaye aussi de d'élargir le spectre de tout ce qui peut se faire dans le golf. Donc ça c'est une émission qui est diffusée tous les deux mois et on va à la découverte d'un golf, d'une région, de gens dans un ton un peu décalé avec Thomas Serafin et c'est vraiment un très très beau programme. Je pense que les gens commencent à le connaître. Est-ce qu'on a vocation à faire ça? Ben, moi, je dirais oui, évidemment, on a vocation à faire ça. On a envie de le faire. Est-ce qu'on a la possibilité et les moyens? Ça, c'est autre chose. La vocation première, je vais vous la rappeler quand même très brièvement, même si c'est compliqué de faire court. Je t'en avais déjà parlé, je crois, il y a très longtemps. La vocation de Golf Plus, à la base, c'est quoi? C'est de passer les images qui ne passent pas sur Canal, à la base. Le golf est sur Canal depuis, je vous l'ai dit, depuis 86. Et on passait la dernière heure des majeurs ou des choses comme ça. À Canal, on s'est aperçu que finalement, on achetait des droits et on en passait moins de 20%. 80% des droits allaient à la poubelle et n'étaient pas utilisés. Donc, c'est pour ça qu'a été créé Golf Plus à la base en 2012, pour dire on va diffuser tout ce qui n'est pas diffusé sur Canal. C'est aussi pour ça, et petite parenthèse, que jusqu'en 2017, effectivement, lorsque la diffusion, par exemple, du Masters débutait sur Canal, on rendait l'antenne sur Golf Plus. Parce que on devait protéger Canal, mais ce qui était un non-sens pour les non-abonnés, pour les abonnés Golf Plus non-abonnés Canal. Donc ça, on l'a fait changer également. Maintenant, donc effectivement, à la base, on est juste, sans que ce soit péjoratif, on est juste un tuyau, un robinet à image à la base. On n'est pas là pour faire des émissions à la base. Donc on a envie d'en faire, mais on n'avait pas, je dirais, les moyens de le faire. Les moyens nous ont été donnés. On s'est bougé parce que c'est aussi du système D. L'œil des pros, je l'ai créé avec Julien en 2017. C'était bout de ficelle hein, au départ. Ça continue parfois d'être un petit peu bout de ficelle, mais ça, quand tu regardes la première et quand tu regardes ce qu'est devenu l'œil des pros aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Même si ça reste de l'artisanat, c'est de l'artisanat haut de gamme aujourd'hui, on va dire. Donc voilà. Alors évidemment, on a envie de créer plein d'émissions. On a envie de créer plein d'émissions. Alors on est tenu par les moyens financiers. On est tenu par les moyens humains également, parce que au bout d'un moment, on peut pas se démultiplier. Donc, quand je dis on peut pas se démultiplier, la vocation première, c'est de faire du direct. L'année dernière, on a fait 2800 heures de direct en termes de tournois. Il faut savoir que, par exemple, le MAG représente moins de 2% de notre temps d'antenne, mais en termes d'énergie humaine, ça représente plus de 80% des forces vives. Donc, en fait, on met 80% de notre énergie dans ce qui représente 2% de notre temps d'antenne. Alors, certes, on a un MAG de qualité, mais la première chose et la plus importante, c'est de proposer des bons directs aux gens. Donc voilà. Donc évidemment qu'on a envie de faire d'autres choses. Des idées, on en a, hein, elles manquent pas. Il faut les mettre en œuvre. Par exemple, pour revenir sur Easy Driver, c'est une émission que j'ai écrite en 2017 déjà. Et je trouvais pas. Les partenaires et le financement pour la faire parce qu'on pouvait pas la faire en interne. Donc on a trouvé un partenaire qui est Golfi, pour ne pas le citer. On va les remercier au passage parce que ils nous ont fait confiance et aujourd'hui d'ailleurs ils sont ravis parce que c'est une émission vraiment fantastique. Donc on arrive grâce à des coprods et à des choses comme ça à faire beaucoup de choses. Voilà, on travaille aussi beaucoup avec Jean-Louis hein, Tortoulon, que tu connais, que tu as eu et que tu as régulièrement, qui nous fait de beaux programmes en coprod. Proposer plus avec uniquement nos moyens propres en interne, c'est pas possible.
Alors, on va arriver à la conclusion de ce podcast et j'ai là une traditionnelle question avec chaque invité. Et là, je vais faire plus appel peut-être à ton opinion personnelle, et pas forcément représenter Golf Plus, mais quelle évolution ou quel changement, selon toi, est le plus significatif pour développer le golf en France ?
Bon, bah pour moi, la base, c'est les enfants. C'est une évidence. C'est une évidence. Et ça passe par le golf scolaire. Alors, le golf scolaire, c'est pas facile parce que finalement, il y a un travail fédéral, mais surtout, il y a un travail en relation avec le ministère de l'Éducation nationale et c'est pas toujours facile de trouver les passerelles entre les deux. Je sais que partout où c'est mis en place, ça fonctionne, mais pour que ça fonctionne, il faut que le prof de PS, ce soit un golfeur, souvent. Donc ça, ça fonctionne quand c'est fait comme ça. Après, c'est vraiment pas facile parce que se pose le problème de l'acheminement des enfants sur les terrains de golf. Donc ça, c'est quand même quelque chose de compliqué. Donc ça passe par le scolaire, à mon avis. Et puis ça passe aussi par un boulot dans les clubs, dans les régions, dans les comités départementaux, dans les écoles de golf. Dans les écoles de golf, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. C'est-à-dire qu'en fait, l'école de golf, c'est dirigé par les pros et les pros, ben, il faut qu'ils aient les moyens, les ressources et l'envie, ce qui n'est pas toujours le cas, de s'occuper des gosses et de les faire progresser. Parce qu'il faut aussi qu'ils gagnent leur vie, les pros. Et quand ils s'occupent des gosses, eh ben, ça leur rapporte moins que de s'occuper d'une personne qui va régler une leçon à l'heure. Donc, il y en a qui sont, heureusement, il y en a qui sont investis dans des régions, partout. Il y en a des tas. Il y a du travail qui est fait, qui est remarquable dans certaines écoles de golf, mais ça, c'est uniquement avec des pros qui se sentent investis d'une mission. Et puis il y a les comités départementaux, c'est important. Je pense à ça parce que, alors, on a envie de dire pourquoi ils vont en citer un et pas un autre, mais il y en a un qui me vient tout de suite à l'esprit. Je sais que c'est le comité de la Loire-Atlantique à Nantes. Il y a un nouveau président là depuis un an qui fait un travail mais colossal avec les gamins, avec toute une équipe, et il se bouge pour organiser des choses, pour acheminer les gosses, pour organiser des compètes, pour créer des événements, pour faire venir des pros. Pour encadrer les gamins. Donc voilà, je pense que le travail pour développer ça, ça passe par les enfants. Parce que si tu leur donnes le virus quand ils ont 12 ans, ok, tu vas en perdre beaucoup en route, hein, forcément, parce que quand t'as 14 ans ou 15 ans, bah t'as envie d'aller faire du basket ou du foot avec les potes, et puis quand t'as 17 ans, bah, on pense à autre chose. Mais on finit toujours par y revenir. À 35 ans, à 40 ans, ils y reviendront.
Un grand merci Thierry David pour ta disponibilité et puis ton enthousiasme toujours à parler golf. Et puis un grand merci à titre personnel, on va dire, de fan de golf pour tout le travail que vous faites avec ton équipe. Merci beaucoup et puis j'espère à très bientôt.
Merci beaucoup Lionel, c'était un grand plaisir.
Au revoir Thierry. Et merci à toutes et tous de votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à noter et à commenter sur votre plateforme de podcasting préférée. La semaine prochaine, je reçois Akmal Abazi de la société suédoise Greenfee 365. Belle semaine et à bientôt.